Rencontre avec une émission proposée par Dominique Sénat. Rencontre avec une émission proposée par Dominique Sénat.
Bienvenue pour cette rencontre avec, aujourd'hui, Zélia Aïtoufella, une jeune autrice qui publie son premier recueil de contes et légendes intitulé « Les petits mythes » aux éditions De Temps à Autre. Bonjour Zélia.
Bonjour Dominique.
Et merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Val de Reims et félicitations pour ce joli premier livre. Pour nos auditeurs qui ne vous voient pas, je précise que vous avez démarré ce projet il y a 3 ans maintenant. Vous aviez 10 ans et là vous en avez presque 13 aujourd'hui. C'est bien ça ?
Oui.
Comment est né votre projet ?
C'est à l'école que tout a commencé. Notre maîtresse nous avait fait un travail avec des étudiants qui étaient venus exprès pour nous sur les monstres et les contes et légendes. Et donc, on avait commencé un travail à l'école. Et chez moi, j'avais voulu continuer ça parce que ça m'avait beaucoup plu.
Et un travail d'écriture ?
Oui.
Et d'écriture un peu plus longue que d'habitude, pas simplement une courte rédaction
ou oui,
un tout
petit
texte.
Oui, c'était une petite histoire qui devait faire 1 ou 2 pages.
Et donc, les étudiants et la maîtresse avaient expliqué un peu des règles. Il y a des règles quand on écrit une nouvelle, des contes sur des monstres,
Nous, on avait quelques règles sur il fallait qu'ils aient des caractéristiques spéciaux, tout ça. Mais après, moi, j'ai un peu enlevé ça dans mon écriture. Mais sinon, il n'y avait pas énormément de règles.
D'accord. Une introduction, une fin, peut-être, non ?
Oui, bien sûr.
Une énigme ?
Oui.
Et puis des noms un peu particuliers pour chacun des personnages ?
Ça, ce n'était pas obligé. C'est moi qui l'ai rajouté.
Alors, quels sont justement les héros de vos 10 petits contes, de vos 10 légendes ?
C'est principalement des monstres, donc de tous les noms possibles.
Par exemple
Blabaeux, par exemple,
oui.
Il y en a un. Et donc, ils se rencontrent à chaque fois avec des familles d'humains et se confrontent. Et donc, c'est des monstres plutôt sympathiques et des humains plutôt méchants et hargneux, à part les enfants qui sont toujours gentils.
Je crois, oui. D'ailleurs, il y a un professeur d'un institut de formation de maîtres, justement, d'enseignants, à qui on a fait lire votre livre et qui a eu la gentillesse de vous écrire en réponse. Et il écrit, je crois, « Chacun des récits raconte des relations entre des monstres, le plus souvent en famille, et des humains. Des monstres pacifiques, écologistes, sensibles, et des humains que l'on découvre, avides de profit, parfois guerriers. Dans toutes ces histoires, il s'agit de contrôler un territoire, d'accepter l'autre, de vivre avec ou sans les nouvelles technologies. Chaque récit conduit les lecteurs dans un monde différent, une habitation troglodyte, une école, une planète lointaine, mais reprend un certain nombre d'invariants. D'abord, le jeu avec les noms des monstres, proprement imprononçables. » Vous en avez trouvé un qui l'était quand même, heureusement.
Oui.
Mais c'est vrai que moi j'ai lu votre livre et il y en a qu'on ne peut pas prononcer. Hein. C'est une succession de consonnes, c'est impossible même à lire. Quoi, hein. Et parfois, il y a un clin d'œil à des personnages célèbres. Ensuite, le conflit avec les humains qui montre, je crois, que les monstres ne sont pas toujours ce qu'on pense. C'est ce que vous avez voulu faire.
Oui. Je voulais, parce que j'en avais un peu marre que ce soit toujours les monstres qui étaient les méchants, donc j'ai décidé d'inverser les rôles pour que les monstres soient enfin vus.
Apparaissent humains ?
Oui, un peu.
Mais il y a quand même des humains qui sont sympathiques ?
Oui, principalement les enfants, que je voulais toujours montrer sympathiques, mais il y a quelques humains gentils.
Ça, c'est le privilège de la jeunesse, alors.
Oui.
On se serre les coudes entre jeunes.
C'est ça.
Ouais. Comment vous écrivez ? Quand est-ce que vous écrivez, que vous avez le temps d'écrire, alors, tout ça ?
Souvent, le week-end, j'écris. Et aussi, beaucoup dans le train. J'adore écrire dans le train parce que ça m'inspire. Et comme les trajets sont des fois longs, j'écris pour passer le temps.
C'est parce qu'il y a beaucoup de retard ? Merci, merci Zélia. On marque une pause musicale avec un titre que vous avez choisi, c'est la Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Retour de Rencontre avec, que nous passons en compagnie de Zélia Itoufella, une jeune autrice qui présente son premier livre, Les Petits Mythes, qui regroupe 10 contes avec les rencontres toujours pleines de surprises, de familles humaines et de familles monstres. Alors, on l'a dit dans la première partie, vous aimez jouer avec les mots dans vos histoires et vous faites référence à des personnages célèbres. Dans Les Deux Mondes, par exemple, un monstre savant, le plus savant des savants, s'appelle Albert Einstein et il est question de bombes.
Oui,
pour vous, c'était une évidence. Vous vouliez faire référence à Albert Einstein.
Oui.
L'inventeur de la bombe atomique.
C'est ça.
C'est ça. Mais ce monstre, est, avec ses actions et cette bombe, il est aussi cruel que tous ceux qui ont jeté des bombes atomiques sur les peuples sans
non,
défense.
Pas non, du tout. Lui, il voulait regagner la paix entre les humains et les monstres.
D'accord, d'accord. Toujours cette volonté d'avoir des monstres qui veulent réunir les humains avec,
oui,
leur famille monstre. Et dans une autre, il est question d'un cheval de croix censé cacher une armée entière, celle de Brulis. Donc là, ça rappelle...
Ça rappelle les contes de la mythologie grecque avec...
Ulysse.
Oui, et le cheval de Troie.
Et le cheval de Troie. Mais vous dites, je crois, les humains avaient lu l'Odyssée,
oui,
et ils ne se sont pas fait piéger cette fois.
C'est ça.
Cette fois, oui, oui. Et qui a fait les illustrations magnifiques de votre recueil?
C'est Lila Sénor, donc de la maison d'édition De Temps à Autre, qui a fait les illustrations. Donc elle les faisait, puis elle me les montrait, et on validait ensemble.
D'accord. Zélia, j'ai une faveur à vous demander. Pour nos jeunes et moins jeunes auditeurs, est-ce que vous accepteriez de nous lire un court extrait de vos contes?
Bien sûr.
Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez choisi?
J'ai choisi Les Deux Mondes, donc le début.
Très bien, on vous écoute.
Il y a bien longtemps, un mur séparait le monde des humains et celui des monstres. Ces deux territoires étaient très différents. Chez les humains, il y avait toujours la guerre, alors que chez les monstres, la paix demeurait. Mais un jour, les humains, tellement jaloux de cette paix qui avait l'air imperturbable, détruisirent ce mur protecteur. Furieux, les monstres ripostèrent. La guerre de 100 ans commença. Les humains maîtrisaient la bombe et les monstres le feu. Ainsi demeura cette concurrence. Au bout de 50 ans de conflit, le scientifique monstre Sturldr, l'un de ceux qui ont marqué l'histoire, eut l'idée de rebâtir le mur pour tenter de mettre fin au massacre. Il proclama ainsi, de sa voix aiguë et solennelle :
« Chers messieurs, chères mesdames, chers êtres, qui que vous soyez, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'on va reconstruire le mur abattu violemment. Et cette fois, il sera en métal, robuste et infranchissable. »
Or, les humains, habitués à la guerre, bien qu'ils aient souhaité qu'elle cesse, au fond d'eux-mêmes, n'avaient qu'une idée en tête, détruire le nouveau mur. Ils en avaient bien sûr les moyens. Ainsi, leurs bombes réussirent finalement à traverser le nouveau mur nouvellement bâti. Et la guerre reprit de plus belle, avec encore d'autres horreurs, malheureusement. 5 ans plus tard, un autre scientifique monstre fit son apparition. Il était très connu à l'époque et avait même à plusieurs reprises collaboré avec Sturldr. Désormais, c'est lui qui prendrait les décisions. Le remplaçant, intelligemment, eut l'idée de faire installer des trampolines géants. Pour lui, si les humains décidaient d'envoyer leur fameuse bombe, celle-ci serait renvoyée par rebond directement chez eux. Cette solution fonctionna pendant 2 ans. Toutefois, à force de recevoir des bombes, les trampolines se déchirèrent. Et la guerre continua, encore une fois. 10 ans après, les humains ayant bientôt épuisé leurs ressources, et bien qu'elles se fassent plus rares, les bombes continuaient de s'abattre sur les monstres. C'est alors qu'un certain Azerty, encore un autre scientifique monstre qui a marqué l'histoire, eut une idée astucieuse. « Nous allons construire un grand cheval creux en bois. Nous l'appellerons cheval de croix. »
Et la suite dans « Les petits mythes » paru aux éditions De Temps à Autre. Merci Zélia. Alors, nous faisons maintenant une nouvelle pause musicale avant de nous retrouver pour la dernière partie de l'émission. Et vous avez choisi « Si on chantait » du chanteur Old Olaf.
Si on chantait un peu comme ça, en faisant des petites manières, comme si notre langue parfois avait le petit doigt en l'air.
Si on chantait en murmurant, forcément on l'entendrait moins.
Ou bien faudrait murmurer fort pour que la voix ressorte enfin.
Et si on chantait juste de bon cœur, sans vouloir copier un autre chanteur? Et si on chantait sans se prendre la tête, tout le monde qui sait chanterait peut-être.
Si cantábamos en español como los de Guadalquivir o sobre la Costa del Sol, tout le monde verrait que ça veut rien dire.
Si on chantait sans les consonnes,
si on chantait en rigolant,
et si on chantait juste de bon cœur, sans vouloir copier un autre chanteur. Et si on chantait sans se prendre la tête, tout le monde qui sait chanterait peut-être.
chantait sans mélodie, ce serait pareil, en différent. On serait la nouvelle scène Frenchy, comme Violet, en plus déprimant.
Si on chantait près du micro, ça saturerait évidemment.
Si on chantait loin du micro,
mais je peux pas aller beaucoup plus loin.
Et si on chantait juste de bon cœur, sans vouloir copier un autre chanteur. Et si on chantait sans se prendre la tête, tout le monde qui sait chanterait peut-être.
Si on chantait sans les paroles,
oui, on se fait chier.
Si on chantait sans Monsieur D, on pourrait faire des harmonies sans fausse note ni vulgarité. On serait enfin groupe uni.
Et
si on chantait juste de bon cœur, sans vouloir copier un autre chanteur. Et si on chantait sans se prendre la tête, tout le monde qui sait chanterait peut-être.
Et si on chantait,
on pourrait chanter comme Jeanne Moreau,
juste de bon cœur,
Jeanne Moreau téléphone maison,
sans vouloir copier.
Et si on chantait à l'envers,
Et si on chantait répétant.
Et si on chantait répétant. Et si on chantait répétant.
Oh non, c'est chiant. Oh non, c'est chiant. Oh non, c'est chiant.
Moi, je préfère encore Jeanne Moreau.
Chanterait peut-être
maison.
Et si on chantait juste de bon cœur, sans vouloir copier un autre chanteur.
Nous retrouvons Zélia Itoufella pour cette rencontre avec. Et juste avant de nous quitter, Zélia, je vous pose quelques questions courtes auxquelles vous répondez du tac au tac. D'accord ?
Oui.
C'est parti. Quelle autre passion avez-vous à côté de l'écriture ?
J'aime bien lire et jouer.
Et à quoi jouez-vous ?
Surtout au Playmobil.
D'accord. Vous racontez des histoires ?
Oui.
Vous fabriquez des villages ? Oui,
c'est ça.
Comment vous vous voyez quand vous serez adulte, par exemple, à l'âge de qu'a votre maman actuellement ?
Quand j'étais petite, je me voyais plutôt vétérinaire, je voulais construire un zoo tout entier. Puis maintenant, je me dis que c'est un peu compliqué, donc je me vois plus, par exemple, prof de sciences et vie de la Terre au collège ou à la fac. Ou...
Quels artistes aimeriez-vous rencontrer ?
Zao de Sagazan. Je l'aime beaucoup, c'est ma chanteuse préférée.
Et quel est votre plat préféré ?
Les pâtes à la carbonara, j'aime beaucoup.
Qui vous les fait ou est-ce que vous les préparez vous-même ?
J'en ai jamais préparé, mais c'est souvent ma mère ou ma grand-mère qui m'en font.
Et quel roman pour adolescents ou enfants nous conseilleriez-vous ?
J'ai beaucoup aimé La famille aux petits oignons. Donc ça parle d'une famille de 6 garçons et il se passe à chaque fois des aventures extraordinaires. Par exemple, des vacances au ski qui dégénèrent un peu, enfin, tout ça.
C'est une série, il y a plusieurs volumes, plusieurs albums.
Et il y a notamment 2 intégrales.
Merci Zélia de votre visite à RVR et de nous avoir présenté Les Petits Mythes. Avez-vous un nouveau projet en cours éventuellement ?
J'ai quelques idées pour l'instant sur plusieurs projets, mais j'ai 4 idées, mais j'en choisirai, voilà.
Vous choisirez celle qui ira peut-être à son terme pour un roman, pour des nouvelles ?
Plutôt un roman.
Un roman. Pour les auditeurs qui seraient intéressés et qui voudraient acquérir Les Petits Mythes, Contes et Légendes de Zélia Itoufella, vous pouvez entrer en contact directement avec les éditions de temps à autre Le message, le mail est dtaa.asso@gmail.com et toutes ces informations, bien sûr, seront sur le site rvrradio.fr. Au revoir et à bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode de Rencontre avec. D'ici là, prenez soin de vous, écoutez la radio sans modération et les podcasts sur rvrradio.fr.
C'était Rencontre avec, une émission de Dominique Sénor, réalisée par Philippe Fest.